Parole donnée aujourd'hui à
Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, maire de l'Argentière, l'ABC depuis 1989, c'est-à-dire depuis la grande période de la reconversion, et depuis une période plus récente, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en charge du massif alpin.
Et vous appartenez politiquement en parlant au PRG.
Que je préside au niveau départemental, le parti radical de gauche, le parti qui avait inventé les primaires citoyennes et qui se sont donc déroulées l'année dernière.
Oui, puisque nous sommes en 2012, alors en fin d'émission, les vœux, vos vœux, Joël Giraud, pour le département et pour vous et pour la France. L'avenir des services de réanimation de l'hôpital de Briançon semble sauvé. Vous nous commenterez cette actualité. Vous nous commenterez également l'actualité du train de nuit Paris-Briançon. Êtes-vous serein sur ce dossier, Joël Giraud? Oui, non?
Bon, écoutez, moi j'ai une sérénité qui a une limite, qui était aussi celle du contrat qu'a passé l'État avec les trains d'équilibre du territoire, qui était un contrat de 3 ans, dont 1 an et demi sont déjà 1 an et demi, ratés, puisque nous sommes obligés à chaque fois de faire une manifestation pour tout simplement pouvoir réserver à bord du train de nuit, ce qui est quand même un paradoxe absolument incroyable. Donc je crois que l'avenir du train de nuit ne sera assuré que dans la mesure où, premièrement, on retrouve les voies d'une gouvernance différente entre Réseau Ferré de France et la SNCF, propriétaire et exploitant, qui se renvoie la balle d'une manière assez extraordinaire sur cette affaire-là, où on se rend bien compte qu'il n'y a pas de gouvernance qui a été mise en place sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs. Donc oui, je suis toujours inquiet dans la mesure où, pour certains week-ends de mi-février, le train de nuit n'est toujours pas sur les écrans radars, j'allais dire, des services de réservation de la SNCF. Oui, je suis inquiet dans la mesure où la convention relative au TET va faire l'objet d'une évaluation à plus de mi-parcours pour savoir si on va ou non continuer à financer ces trains pour l'équilibre du territoire. Et que, évidemment, nous sommes dans une situation qui est très dépréciée puisqu'on n'arrivait pas seulement à circuler à bord de ce train. Donc oui, je suis inquiet aussi parce que je suis persuadé, mais ça c'est une question de politique plus nationale, que ce sabotage en règle des services, certes pour une part c'est une gabegie, mais pour une part c'est quand même assez volontaire, parce que quand on ne veut pas mettre en place une gouvernance au niveau national, c'est aussi parce qu'on espère en tirer les marrons du feu, risque de voir un jour le train de nuit, un jour proche, disparaître définitivement du paysage ferroviaire, à moins qu'on ne veuille le vendre à un groupe ferroviaire privé qui ne le fera bien évidemment circuler que les week-ends à haute saison d'hiver et en saison d'été. C'est-à-dire qu'on aura un produit pour les touristes, mais nous n'aurons pas un train qui nous permettra, nous, alpins, de pouvoir être reliés convenablement à la capitale et de pouvoir continuer à vivre et travailler au pays en se déplaçant quand même. Donc voilà, c'est quelque chose qui pour moi est consternant, parce que il s'agit sans arrêt de remettre sur le tapis les mêmes problématiques. Moi j'ai participé activement à la mise en place de cette convention au niveau national sur les trains d'équilibre du territoire, parce que je me disais que c'était une bonne idée, déterminer un certain nombre de trains intercity de nuit ou de jour où nous avions la possibilité, je dirais, de dire enfin une fois dans ce pays qu'il n'y avait pas d'un côté la régionalisation et de l'autre côté les TGV, mais qu'entre les deux il y avait quand même un monde qui existait et que ce monde c'était la France des territoires. Donc j'ai soutenu cette démarche à fond, je l'ai accompagnée, j'ai fait en sorte que ça se passe bien au niveau des différentes commissions auxquelles j'ai participé au niveau national, et notamment la commission d'aménagement durable des territoires et de développement durable qui est la commission ad hoc. Et puis nous sommes tous, j'allais dire à droite comme à gauche, extrêmement déçus de cette gabegie totale. Gabegie où il faut chercher quand même à qui profite le crime, et à terme je crois que le crime profite bien, en fait, à des exploitants privés qui attendent en embuscade pour récupérer les lambeaux de ce qui est rentable sur un certain nombre de lignes.
Joël Giraud, vous nous ferez le point également sur le projet de tunnel ferroviaire sous le Mont Genèvre. Vous nous parlerez d'intercommunalité et de ce projet concernant la commune de l'Argentière, dont vous êtes le maire, d'englober aussi Fraissinière, Champcella et la Roche-de-Rame. Et puis vous nous direz si finalement il y aura bien un repreneur pour les aciéries fonderies de Provence de l'Argentière-l'ABC. D'abord un mot sur la politique nationale. On a appris hier que la France perdait son triple A. Votre commentaire et les conséquences pour vous de la perte de ce triple A ?
Bah, écoutez, mon premier commentaire, c'est vrai qu'il y a encore quelques temps, allez, je vais dire il y a un peu plus de 2 ans, j'étais un peu comme tout le monde et comme tous les commentateurs politiques, mais aussi comme tous les citoyens. Le seul classement en AAA que je connaissais, c'était un classement alimentaire, et ça tombait que c'était le classement alimentaire sur les andouillettes en plus. Et il fallait avoir 5A pour que l'andouillette soit de qualité. Bon, alors je commence en plaisantant, mais la plaisanterie, là, va tourner un petit peu court, parce que, bon, moi, ce que j'en retiens, c'est pas tant qu'une note est dégradée en soi par une officine sur laquelle j'ai une confiance relativement limitée. Parce que je rappelle quand même que l'apparition de la notation comme un facteur de puissance publique est arrivée en même temps que la crise des dettes souveraines, et est arrivée en même temps que la volonté de mainmise d'un certain réseau sur un certain nombre d'États. Ce n'est quand même pas complètement par hasard. Si aujourd'hui on retrouve à la tête de l'Italie, à la tête de la Grèce et à la tête de la Banque Centrale Européenne, 3 personnalités éminentes de Goldman Sachs. Déjà, je crois qu'on est passé à un système qui est un système, cette fois, où la bascule dans la mondialisation financière a été quand même très orchestrée, et à partir de l'Europe plus qu'ailleurs. Donc, première remarque. Mais la deuxième remarque, c'est qu'au sein d'un espace où effectivement ce système de notation et de cotation est un système qui malheureusement a des conséquences sur les citoyens, oui, la dégradation de la note de la France va poser un énorme problème, parce que ça va signifier premièrement, dans le couple franco-allemand, il y a un couple qui ne marche plus. Un couple qui ne marche plus, puisqu'il y en a un ou une, c'est-à-dire l'Allemagne, qui à l'heure actuelle a de bonnes notes, si on peut se permettre cette expression, qui n'a pas, je le dis bien, malgré un gouvernement de droite, qui n'a pas totalement bradé ni les territoires, ni la notion de solidarité entre les citoyens. Il faut quand même se rappeler qu'en Allemagne, par exemple, toutes les mesures qui ont été annoncées sont des mesures qui font l'objet de négociations syndicales préalables, ce qui n'a jamais été le cas en France. Et ce que d'ailleurs François Hollande veut introduire dans la Constitution. Alors tout le monde pousse des grands cris en disant quelle horreur, ben en Allemagne c'est dans la Constitution et puis tout le monde le fait. Et deuxièmement, l'Allemagne est un réel pays fédéral. Moi qui suis un partisan de l'Europe fédérale, c'est vrai que les régions ne sont pas des régions croupions comme chez nous auxquelles on a enlevé toute l'autonomie financière, mais des régions à parfaite autonomie financière qui peuvent relancer la machine économique quand elles le veulent, avec les moyens dont elles disposent, mais qui ont les moyens financiers de le faire. Et d'un autre côté, on a un pays qui est un pays qui a retiré l'initiative, et c'est ça le drame, l'initiative de l'investissement aux collectivités territoriales en les étouffant au travers d'une réforme territoriale qui a commencé par une réforme financière. C'est ça qu'il faut que les Français sachent quand même. C'est que l'origine de la dégradation de la situation en France, c'est une dégradation tout simplement de l'investissement public qui est due au fait que c'était les collectivités territoriales qui investissaient le plus, et la perspective en la matière est dramatique. Donc évidemment, les agences de notation qui regardent quelles sont les perspectives d'investissement en 2012 voient des perspectives qui sont très sombres dans ce pays. Donc ils nous ont dégradés. Et je dirais que c'est vraiment la politique gouvernementale actuelle qui est à la fois une politique faite de non-relance au niveau de l'investissement industriel, parce qu'on est quand même les champions en la matière. L'Allemagne a gardé un système d'aide à l'investissement industriel coordonné avec celui des régions. Et de l'autre part, un système territorial qui fait que on a totalement chez nous appauvri les régions qui étaient les collectivités qui devaient intervenir de manière puissante sur l'économie, et que d'un autre côté on n'a pas remplacé ça par des politiques publiques de l'État. Donc voilà, oui, cette note est dramatique parce qu'elle va en plus avoir des conséquences sur le renchérissement du crédit. Et là on arrive au péché originel, moi que je dénonce depuis toujours. On a voulu créer une Europe avec une Banque Centrale Européenne qui est indépendante. Cette Banque Centrale Européenne, elle ne sert pas à soutenir l'économie des États en cas de crise, pour être très clair. La même situation aux États-Unis, la même situation au Japon, parce que je rappelle que le Japon est dans une situation qui est quand même tout à fait dramatique, ne provoque pas les mêmes conséquences. Tout simplement parce que les banques centrales sont des banques centrales interventionnistes, c'est-à-dire que c'est le politique qui décide de ce que doit faire la banque centrale et que la monnaie est un outil de politique. En revanche, chez nous, non. Nous avons un outil monétaire financier qui prime sur la gouvernance politique. Et c'est ça le péché originel. Et c'est ça qu'il va falloir que, dans la mandature prochaine, nos amis allemands également comprennent. Car on a un certain nombre de pays qui vivent sous cette espèce de phobie que le libéralisme est la seule voie possible en matière bancaire et en matière financière. Et là, on voit vraiment les limites du système. Donc il faut revoir effectivement ce qui se passe au niveau européen avec l'ensemble de nos partenaires, mais je crois que cette fois ils sont à peu près parce qu'on est franchement au bord d'une crise. On va parvenir au franc comme le propose Marine Le Pen, on va parvenir au franc comme le proposent tous les gens des De Villieristes et autres nationalistes, Dupont-Aignan et autres. On va rester dans un système qui est la zone euro, dont on a vu par ailleurs un certain nombre de bénéfices, mais qui n'a pas été maîtrisé par les politiques publiques. Il faut une Europe politique, une Europe fédérale. C'est ce que Jean-Michel Baillet, au titre du Parti radical de gauche, a dit pendant la campagne des européennes. C'est ce que j'espère nous allons réentendre aussi dans la campagne du candidat socialiste François Hollande, parce que moi, ça fait partie des chevaux de bataille sur lesquels il ne faut pas lâcher. Et notre cotation, avec les réserves que j'ai dites sur la façon dont tout cela est arrivé sur l'économie mondiale, est un système de cotation qui, à ce moment-là, redeviendra, j'allais dire, le même à peu près pour tous les pays d'Europe. Le problème n'est pas de savoir si on a tous 2A+ ou 2A-, mais si on a une économie qui est à peu près comparable dans l'ensemble des pays de la zone euro, auquel cas, ça ira beaucoup mieux pour tout le monde et pour les Français en particulier.
Joël Giraud est notre invité aujourd'hui dans Parole donnée. Nous sommes à moins de 100 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Joël Giraud, que pensez-vous de la montée de Marine Le Pen dans les sondages? Certains pensent qu'un 21 avril 2002 est de nouveau possible. On évoque même un premier tour qui donnerait comme résultat un duel entre François Bayrou et Marine Le Pen.
Bon, ça, je ne crois pas au duel entre François Bayrou et Marine Le Pen, parce que je ne crois pas à la présence de François Bayrou au deuxième tour, parce que je pense qu'il...
Pourtant, il monte dans les sondages.
Il monte, certes. Il monte, mais je ne pense pas qu'il monte suffisamment pour être au deuxième tour. En revanche, c'est vrai que je suis inquiet du positionnement dans les sondages de Marine Le Pen, d'autant que l'on sait que beaucoup de gens, quand ils sont sondés sur les candidatures du Front National, ne disent pas forcément qu'ils vont voter pour un candidat du Front National. Rappelez-vous ce qui s'était passé... justement, ce fameux 21 avril où Jean-Marie Le Pen était à 6 points de plus que ce qui était indiqué dans les derniers sondages. Enfin, les derniers sondages publiés, puisque les sondages qui n'avaient pas été publiés donnaient bien la réalité de l'opinion française. Tout simplement, moi, je suis inquiet, mais je suis inquiet depuis le début. Si nous avons voulu relancer au Parti radical de gauche le processus des primaires à gauche, c'était bien pour ça. C'est pour que les différences s'expriment dans des campagnes que je qualifierais d'internes entre les différents partis politiques qui composent la gauche et qui ont envie de gouverner avec un président de la République qui change la donne, et qu'ensuite on se retrouve aux élections législatives sur des différences qui sont des différences, je dirais, entre les différentes conceptions qu'ont les différents membres de la majorité. Donc j'étais un zélateur de la gauche parce que d'abord de la campagne des primaires citoyennes de la gauche, parce que je pense que c'est la bonne solution, et que c'est vrai qu'au Parti radical de gauche on avait déjà lancé des proposition de loi en ce sens. Bon, pour autant, je constate que certaines n'ont pas voulu rentrer dans cette logique. Le mouvement des citoyens, ce qui me désole, parce que bon, le mouvement des citoyens est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je trouve que cette idée de socialisme et de république portée par Jean-Pierre Chevènement est une idée extrêmement intéressante et importante. Mais on peut pas rester dans l'isolationnisme le plus total pendant longtemps. De la même façon, j'aurais trouvé que les gens qui sont des écologistes et qui se reconnaissent dans la gauche puissent rentrer dans cette danse, quitte à d'ailleurs faire réfléchir un certain nombre de positions nationales du Parti Socialiste à l'occasion de cette campagne des primaires citoyennes. Tout simplement parce que je voulais qu'un pôle de gauche fort arrive tout simplement devant les électeurs. Alors aujourd'hui, je suis inquiet parce que quand il y a crise, forcément, les gens se sentent orphelins d'un leader Massimo, pour reprendre une expression connue dans des pays un peu fascistes, mais ils se retournent fatalement vers celle qui braille le plus fort. Alors celle qui braille le plus fort, effectivement, c'est elle, avec des solutions qui n'en sont pas. Je citais tout à l'heure à dessein cette histoire de sortir de l'euro pour revenir au franc. Enfin, je veux dire, c'est quand même en arrière tout, et on sait très bien que on ne peut pas reconstruire sur ces bases. Et évidemment, en cherchant des boucs émissaires, l'immigration revient sur la sellette. Mais maintenant, c'est l'immigration tout à fait légale. Puisque je rappelle que avant-hier, nous avons eu droit à une conférence de presse où, à nouveau, on nous expliquait que les immigrés installés légalement dans le pays et travaillant légalement dans ce pays devaient prendre la porte. Donc Madame Le Pen, parce qu'elle apporte des non-solutions ou des solutions poujadistes à des vrais problèmes de société, et que les gens sont complètement désespérés, effectivement, il y a un risque majeur, d'autant que à la fois à droite, on a quand même fait monter tout ce qui était extrémiste dans les paroles, enfin les paroles que tenait déjà Hortefeux, mais que tient Claude Guéant maintenant en matière de sécurité publique et d'immigration sont purement un scandale en termes tout simplement de société, en termes de vie en commun, je dirais, dans un pays comme le nôtre. Donc je suis mais alors terrifié. D'ailleurs, ce sont des propos là aussi. On fait souvent des comparaisons avec par exemple l'Allemagne. Allez voir les commentaires des journaux allemands sur les propos que tient le ministre de l'Intérieur français, qui sont mais complètement exclus en Allemagne parce qu'ils ont connu effectivement le fascisme, mais aussi parce que la société s'est refondée sur des principes de respect et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi là-dessus. Donc moi j'aime bien qu'on fasse des comparaisons européennes, mais qu'on les fasse un petit peu là aussi surtout. Donc voilà, moi je suis inquiet, je le dis, d'autant que la campagne, la campagne ne démarre pas extrêmement fort, n'a pas démarré très fort du côté de la gauche ou du côté de la droite. La droite a intérêt à ce qu'on oublie son bilan, la gauche devrait avoir intérêt à ce qu'on le présente de manière plus offensive. Mais je reste très optimiste.
Oui, on attend une ou deux idées fortes, une ou deux idées nouvelles au PS et de la part de François Hollande. On les entend pas.
On les entend pas parce que, en fait, le programme n'est pas présenté en tant que tel par le candidat déjà. Bon, cela étant,
pourquoi faut-il voter pour François Hollande
Moi, très clairement. Je veux dire, voter pour Hollande, c'est voter pour un candidat qui, dans un contexte, il va être le contexte le plus difficile qu'on a connu depuis longtemps. Parce que ça, c'est pas la peine de dire le contraire. On retricote la République, parce qu'on l'a détricotée. Et retricoter la République, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au sein de marges de manœuvre financières, qui vont être des marges de manœuvre financières extrêmement limitées, eh bien tout simplement, on remette de l'équité entre les citoyens, qu'on réhabilite l'impôt. Voilà. Alors ça, c'est réhabiliter l'impôt, ça apparaît comme quelque chose de lunaire maintenant, parce que plus personne, tout le monde considère que l'impôt c'est mauvais en soi. Pas tout le monde, heureusement. L'impôt est une invention intelligente parce que c'était une invention redistributrice. Mais regardez d'ailleurs, à chaque fois que le candidat Hollande tente de dire quelque chose sur la redistribution en termes de richesse, il est littéralement attaqué par la gauche. Regardez cette histoire de fou du quotient familial. Bon, et la façon d'ailleurs dont ça a été commenté par les médias nationaux, moi que je trouve un petit peu lunaire aussi. On a présenté ça comme une régression sociale, ce qui avait été dit. Alors, qu'est-ce qui avait été dit? Tout simplement qu'on est dans un système à l'heure actuelle en France où effectivement, quand on veut retrouver des équilibres dans la société, trouvez-vous normal qu'un couple de gens qui gagnent le SMIC, chacun un SMIC et qui ont trois gosses, et un système redistributif qui fasse qu'il touche tout simplement 900 euros de redistribution fiscale, ou 600 euros entre 600 et 900 euros, tandis qu'un couple qui gagne 10 fois le SMIC chacun, avec le même nombre d'enfants, se retrouve dans une situation où d'avoir 9000 euros de redistribution en sa faveur. Voilà, ce genre de questions qui sont posées, qui sont des questions pragmatiques, qui sont des questions simples, qui est tout simplement de dire il faut redistribuer en faveur des classes les plus pauvres et des classes moyennes au détriment des classes les plus riches, alors qu'on a fait depuis le début de ce quinquennat, quelque chose d'extraordinaire. Je rappelle que l'ensemble des mesures des collectifs budgétaires suite à la crise sont des mesures correctrices qui pèsent sur les ménages et qui sont d'un montant inférieur aux cadeaux fiscaux qui ont été faits, par exemple avec le système du bouclier fiscal. Enfin, il faut quand même s'en rappeler. Je veux dire, on n'aurait pas besoin aujourd'hui de faire des mesures de rigueur s'il n'y avait pas eu le bouclier fiscal. Alors, on nous annonce qu'effectivement, c'est voté. D'ailleurs, il va être supprimé, mais il n'est pas supprimé à l'heure actuelle. Je veux dire, il est supprimé à partir de cette année. Bon. Alors, écoutez, excusez-moi du peu, mais une idée force du candidat Hollande, c'est peut-être de remettre de là-dedans, je dirais, de l'équité entre les citoyens. Et puis aussi, parce qu'il est issu d'un monde un peu plus rural que les autres, je tiens beaucoup à ce qu'on remette de l'équité entre les territoires, parce que ces territoires de la République, en ce moment, souffrent. Il n'est pas normal qu'un département comme les Hautes-Alpes se retrouve de moins en moins aidé par la collectivité nationale, alors qu'on va mettre en place des métropoles qui, lorsqu'ils bougeront leur fiscalité de 0,1%, auront une augmentation de budget supérieure au budget d'un département comme les Hautes-Alpes. Tout ça n'est pas normal. Donc, je compte effectivement beaucoup sur lui. Alors, c'est plus une question de méthode qu'une question d'idée-force, pour remettre de l'équité entre les citoyens et de remettre de l'équité entre les territoires, parce qu'à l'heure actuelle, la France est en train de crever de cela, y compris dans son investissement public et également dans la pauvreté qui devient le lot commun de pratiquement un quart des Français.
Joël Giraud, vous êtes député des Hautes-Alpes de la seconde circonscription. Vous êtes candidat à votre succession?
Oui, tout à fait.
Pourquoi?
Je l'avais d'ailleurs dit sur
pourquoi
votre antenne.
Alors que François Hollande et le PS vont mettre en place le non-cumul des mandats. Vous êtes aussi vice.
Je vous ferai remarquer d'ailleurs qu'il ne s'appliquera qu'une fois voté. Mmh. Et je l'ai toujours dit. Moi, j'ai
Jean-Louis Bianco lui a décidé dans les Alpes-de-Haute-Provence de ne pas se représenter.
On lui avait déjà demandé de ne pas se représenter parce qu'il avait 69 ans. Donc j'ai pas trouvé d'une grande élégance non plus. Mais enfin bon. Mais et puis parce que peut-être il n'est pas dans la bonne lignée au niveau du Parti socialiste vu la direction actuelle.
Pourquoi ne pas laisser votre place à Gérard Fromm, par exemple? Et vous garderiez, vous resteriez vice-président de la région et maire de la Chantière-l'Abessin.
Ce que j'ai toujours dit, c'est que de toute façon, moi, j'étais favorable à ce qu'on instaure un système électoral qui fasse que l'on ne puisse pas aller au-delà d'un mandat national et d'un mandat local, sachant qu'il fallait compter le mandat local au sens extensif du terme. C'est-à-dire, par exemple, compter les communautés de communes, les communautés d'agglos qui ne sont pas comptées à l'heure actuelle. Bon, on est dans un système en France qui serait complètement modifié, la donne serait modifiée avec cela et ça, j'y suis entièrement favorable. Par contre, je n'ai jamais voulu qu'on anticipe par rapport au texte parce que tout simplement, c'est que dans un contexte, je dirais un contexte politique donné, c'est le meilleur moyen pour tout simplement se faire battre. Tout simplement parce que s'engager à ce qu'il y ait effectivement un non-cumul des mandats à terme, je suis le premier à être d'accord, mais l'appliquer par anticipation par principe d'autoflagellation, j'ai toujours considéré que c'était une connerie monumentale parce que la droite, elle ne le fait pas. La droite ne le fait pas, c'est-à-dire qu'elle maintient des positions locales et des, j'allais dire, des espèces de potentats locaux qui sont sur leur territoire, et la gauche devrait arriver la fleur au fusil en disant regardez, moi je suis pur, et quelquefois ça marche pas comme ça la politique. Donc tout simplement, puisque vous m'avez interpellé sur Gérard Fromm, bon, je dirais que là en ce cas on est en plus dans un cas d'espèce un petit peu particulier, puisque nos instances nationales ont clairement dit qui devait être le candidat pour cette législature, et si je suis candidat pour cette législature, c'est aussi parce que pendant maintenant 10 ans, j'ai tenté de limiter les dégâts du gouvernement, qui s'appelle De Villepin ou qui s'appelle Fillon, mais les dégâts du gouvernement vis-à-vis d'un territoire comme celui du département des Hautes-Alpes. Et vous allez, je crois, m'interroger sur la réanimation de Briançon. Ça fait partie des dégâts à éviter lorsqu'on est parlementaire. Et je vais vous dire franchement, j'ai évité des dégâts, j'ai tenté de construire des choses et j'ai envie, avec une nouvelle majorité qui soit une alternative par rapport à la majorité actuelle, de construire de nouvelles choses pour les territoires. Je vous citais l'équité entre les territoires comme un axe fort, à mon avis, de la campagne de François Hollande. Mais revenir à l'équité entre les territoires et faire en sorte que demain, il y ait des régions dynamiques, que ces régions dynamiques puissent avoir une autonomie financière pour mieux affronter la crise, ça fait partie de défis que j'ai envie de relever et ce sont des défis tout à fait indispensables.
Donc si François Hollande en est élu, vous avez envie de rentrer dans un gouvernement et d'être...
c'est
votre ambition, Joël Giraud ?
Non, c'est pas une ambition en soi.
Vous aimeriez, comme tout homme politique.
Écoutez, allez, je vais être méchant, je vais dire que le gouvernement actuel a tellement discrédité la fonction de ministre quand on voit la qualité de celles et de ceux qui y siègent, que je me demande si c'est toujours un bon plan d'être ministre. Mais bon, j'ai envie d'avoir des responsabilités effectivement sur les thématiques que je viens de vous citer. Avoir des responsabilités dans les thématiques que je viens de vous citer, ça peut être aussi président d'une commission à l'Assemblée, ça peut être tout un tas de choses qui sont absolument passionnantes à mettre en œuvre. Donc moi je ne fais pas de plan sur la comète. Il y a des gens qui passent leur temps à se faire voir dans tel cénacle ou tel cercle en se disant c'est comme ça qu'on va arriver à nos fins. C'est pas trop mon style. C'est pas trop mon style non plus parce que ces cénacles sont souvent très parisiens et dès que je peux prendre le train dans l'autre sens pour revenir là où j'ai mes racines, je me sens un petit peu mieux. Voilà.
Alors, il nous reste 6 minutes, Joël Giraud, pour aborder un grand nombre de sujets. On n'aura pas le temps de tous les évoquer. Vous avez fait allusion au service de réanimation de l'hôpital de Briançon. Gérard Fromm nous a dit qu'il avait été très déçu quand même au sorti de la réunion la semaine dernière avec le directeur de l'ARS, qui était assez pessimiste.
Bon, on n'a pas le même point de vue à la sortie de la réunion avec l'ARS, mais même si on a fait un communiqué commun, semble-t-il. Mais on n'a pas le même point de vue. Pourquoi ? Parce que tout simplement, bon, je rappelle le scénario. Le scénario, c'est acte 1, une menace sur le centre, sur la réanimation du centre hospitalier de Briançon, ce qui veut dire une menace sur l'hôpital, pour être clair, parce que un vrai hôpital, quand ça n'a plus à la fois l'AREA, la maternité ou le scanner, bon, c'est plus un hôpital. Donc premier acte, une inquiétude. Deuxième acte, j'interroge le gouvernement à l'Assemblée nationale pour savoir si c'est une menace en l'air ou si c'est vraiment quelque chose de concret. Nadine Morano, commise d'office par le gouvernement, me répond, on va fermer ce truc, de toute façon, il n'y a personne chez vous. Voilà, je résume l'intervention qui était quand même du même acabit. Troisième réaction, troisième fait, l'Agence régionale de santé présente un projet régional de santé qu'il fait voter dans l'après-midi même, je dis bien l'après-midi même, avec la fermeture de la Réa de Briançon inscrite sur le dans le document. Bien, là-dessus, je demande un rendez-vous à la ministre de la Santé. Son directeur de cabinet me reçoit en compagnie du maire de Briançon, ainsi que le conseiller parlementaire. Nous exposons ce que nous n'avons jamais pu exposer, puisqu'il n'y a pas eu de concertation sur ce dossier. Je rappelle quand même que madame le maire d'Embrun, madame Chantal Mayoud, est présidente de la conférence territoriale de santé. Il n'y a pas eu la moindre concertation sur ce dossier de la Réa de Briançon, avant que ce soit inscrit dans le projet régional de santé. Enfin, faut quand même le faire. Quand je suis un élu national, quand on m'interroge sur quelque chose qui se passe dans une commune, j'appelle le maire pour savoir ce qui se passe réellement. Il me semble, c'est la moindre des choses. J'appelle le maire, qu'il soit de droite ou qu'il soit de gauche d'ailleurs, le problème n'est pas là. Bon, là, il n'y a pas eu cette phase de concertation. Le ministère nous dit, vos arguments sur le transfrontalier sont bons, vos arguments sur l'éloignement de Briançon sont bons. C'est vrai que le docteur Riff, qui a écrit dans un journal local qu'on pouvait garder les malades 48 heures en salle de déchocage avant de les transférer en réanimation quand il neigeait, nous a quand même bien aidé, parce qu'une connerie pareille de la part d'un médecin, j'espère qu'il n'a pas beaucoup de patience celui-là et qu'il est devenu simplement expert plutôt que de soigner des gens. Ça nous a quand même relativement bien aidé sur ce dossier. Donc le ministère dit on va faire revoir la copie. Et lors de la réunion que nous avons eue en préfecture sous l'autorité de madame la préfète, qu'a dit le directeur de l'ARS ? Il a dit il y a et il y aura demain une réanimation à l'hôpital de Briançon. Je lui pose la question, est-ce que ce sera inscrit dans le projet régional de santé ? Il me dit d'un ton d'ailleurs extrêmement sec, bien sûr, puisque c'est ce que vous avez demandé. Bon, sous-entendu, le ministère me l'impose. Bon, ce qui veut dire que le projet régional de santé va être inscrit et cette réa va être à nouveau sur le PRS comme une réalité. De la même façon que les 6 lits de l'hôpital d'Aiguilles ne fermeront pas, parce que là aussi je trouvais quand même surréaliste que la région paye 200 000 euros pour faire une maison régionale de santé, y compris que le réseau Céliance, le réseau de médecins Gabancé, et qu'on vous dise parallèlement on ferme les lits, quoi. Je trouvais ça complètement grotesque. Et là aussi, à la question allez-vous réécrire le PRS en ce sens, la réponse a été oui. Donc moi, je suis comme Saint-Thomas, j'attends de voir le PRS. Donc je vous dirai ma satisfaction, j'ai une satisfaction à la suite de cette réunion, parce que j'ai vu arriver un directeur régional, excusez-moi l'expression un peu vulgaire, mais la queue basse, qui s'était fait taper sur les doigts, parce qu'il est allé un peu vite. Cela étant, je suis pas dupe non plus. Il était allé vite parce que le gouvernement lui avait demandé. Et que le gouvernement, dans cette affaire-là, il a fait machine arrière en voyant que c'était une monstrueuse connerie. Et c'est lui qui s'est fait taper sur les doigts alors qu'il a fait qu'appliquer des mesures de, j'allais dire, qu'on lui demandait d'appliquer. Mais j'attends de voir le document. Je lirai le document. Si dans le document, je vois que tout est conforme à ce que nous avons conclu, eh bien, je dirais, on a gagné. Si dans le document, il y a des bémols et des machins et des chouettes, je serai moins satisfait, de la même façon que je vais relancer la machine, mais au niveau national, pour les problématiques de caractère transfrontalier de cet hôpital, parce que là, j'ai pas senti, c'est vrai, de la part du directeur de l'ARS, un intérêt quelconque. J'ai l'impression qu'il fait un petit blocage vis-à-vis de nos voisins et amis italiens. Il doit pas faire partie de ces quelques Français de l'intérieur qui croient qu'on peut pas collaborer avec des voisins et qu'un médecin italien est forcément moins bon qu'un médecin français, alors que je crois que les médecins sont de très bonne qualité dans l'Union européenne et même dans pas mal de pays du Maghreb.
C'est ce que vous allez mettre dans votre bilan, la défense notamment donc de ce service de réanimation de l'hôpital de Briançon.
Oui,
c'est le travail d'un député.
Oui, le travail d'un député. Ça, c'est le travail d'un député sur les dossiers locaux. De la même façon, pour citer un dossier local récent, d'avoir obtenu contre l'avis du gouvernement et de la commission de faire en sorte que le versement transport, c'est-à-dire des recettes pour la mise en place de la mobilité douce dans les communes touristiques puissent se faire en dehors des seuils de population. Ça a été arraché au gouvernement. Ça fait partie aussi des bilans, pour citer deux cas très récents. Un sur, j'allais dire, un lien entre politique nationale et politique locale, la Réa de Briançon. Un autre qui est là aussi, qui a un impact important, qui est du travail législatif, là en revanche pur et dur. C'est-à-dire porter des amendements, les défendre et arriver, ce qui était quand même relativement fort, à faire plier, enfin faire en sorte que le vote soit favorable au Parlement, malgré l'avis défavorable du gouvernement et de la Commission.
L'émission s'achève. Une minute pour vos vœux, Joël Giraud. Vous souhaitez forcément que François Hollande devienne le prochain président de la République.
Oui.
Que vous soyez réélu dans cette circonscription nord du département comme député. Et puis que d'autres, votre principal souhait pour le département de Haute-Saale.
Moi, quand je fais des vœux, je les fais surtout pour les autres et plus globalement, c'est vrai. Alors, bien évidemment, je souhaite que François Hollande soit élu pour la question fondamentale que je viens de vous dire. Le retour de l'équité entre les citoyens, l'équité entre les territoires. Et je formule des vœux pour que dans ce cadre-là, le département des Hautes-Alpes retrouve les voies et moyens du développement économique, du développement durable, qui à l'heure actuelle sont littéralement plombés et plantés par des politiques nationales qui considèrent qu'il n'y a plus d'autres politiques que celles des grandes métropoles. Donc mes vœux vont effectivement avant tout et surtout pour un rééquilibrage des territoires en faveur des préoccupations des territoires de montagne et des préoccupations plus particulières du département des Hautes-Alpes.
Merci Joël Giraud.
Merci à vous.